Radio G, l'heure que vous voulez. Si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. Dans quelques instants, la case de Seb avec au programme de la moto, de la forêt, de la solitude, un peu de jeux vidéo et d'amour et un peu de polar. Mais tout de suite avant, ce sera le générique.
Sauvez-vous tous ! Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Trompez vite! Il est parti de moi ici!
Juste en! Les touristes de mort!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le son 1.5 de Radio G. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la case de Seb, l'émission qui par le truchement des ondes radiophoniques va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images de la BD franco-belge, du manga, du comics, puisque ce soir, oui, on va avoir les trois. Je ne suis pas tout seul, je suis en son... Je suis en compagnie de Luc et de Richard, et je fais des...
Eh bien, reprends-toi.
On va y arriver. Oh là là. On fait ça dans la précipitation et tout, mais on va y arriver. Bon. Déjà, merci d'être avec moi ce soir avec ce micro qui ne veut pas tenir tout seul.
Ah, toi aussi.
Ouais, il y a un problème là, je ne sais pas pourquoi.
Il se fuit, c'est un micro de manga, c'est un micro qui est prévu pour s'en aller.
C'est ça, il bouge et en même temps il y a les traits pour faire la vitesse.
Exactement.
Ah ouais, mais ça on y reviendra tout à l'heure. On va faire des traits pour la vitesse quand on parlera de BD.
D'accord.
On n'a pas tout à fait encore commencé.
Ok.
De quoi on va parler ce soir? J'avais plein de trucs. J'ai du manga, j'ai du manga mignon, j'ai du manga pour enfants, on va peut-être commencer par ça. Hein, si ça vous va?
Oui, c'est une bonne idée.
On va se détendre et puis après on passera vers des choses un peu plus sérieuses. Et on peut même faire une progression par âge. On peut commencer par les enfants, passer par l'adolescence, parce que ça va marcher. Hein.
Oui, moi c'est ado et adolescent.
Voilà.
Je reconnais tes qualités de pédagogue. Toi, t'es vraiment brillant en fait, Seb.
Mais toujours. Ma femme dit que je suis la lumière de ses jours. Je lui fais un bisou d'ailleurs.
Oui, mais c'est ta femme qui dit ça.
C'est ça. Après,
elle a forcément raison, non?
En vrai, est-ce que t'as un abonnement EDF? Ça se trouve, c'est juste ça hein, qui manque.
Ah.
Ou c'est parce que tu payes l'abonnement EDF.
C'est peut-être ça. Eh ben, décidément, on est à fond ce soir. Je vais commencer avec, plutôt des trucs plutôt jeunesse, même s'il y a pas mal de thématiques qui peuvent parler aux plus vieux. Je vais commencer avec Un dragon dans ma cuisine de publié aux éditions Nobi Nobi sur un scénario de Riri Shimada et le dessin, pardonnez-moi si j'écorche, de Miyoshi Furumashi en un seul mot. Hein. Donc déjà on peut saluer l'exploit. De quoi ça parle Un dragon dans ma cuisine? Eh ben,
de quoi ça parle un dragon dans ma cuisine?
Ça parle bêtement d'un dragon dans une cuisine. En gros, on suit une jeune fille qui est d'origine japonaise, qui a eu une bourse en fait pour aller étudier dans le pays de son choix, et elle décide d'aller étudier dans un pays d'Europe de l'Est qui n'est volontairement pas mentionné. Ça se passe dans les années 80, donc pour ceux qui sont un petit peu pas mal en géopolitique, Europe de l'Est, années 80, c'est pas forcément très très fifou, mais ça se décante. Et en gros, cette jeune fille va se retrouver à être capable de vivre toute seule dans une petite maison, sans forcément de l'électricité, tiens si tu veux le prendre au passage, et sans forcément de ligne téléphonique, elle est plutôt isolée, et un jour elle va découvrir une espèce de petite boule sous un de ses fauteuils, et c'est pas trop ce que c'est. Et cette petite boule va éclore, et c'est un bébé dragon. Et du coup, cette jeune fille va apprendre à vivre dans ce pays qui est en plein changement, avec ce bébé dragon. Et c'est trop mignon. Je vais pas en dire beaucoup plus parce que faut le laisser découvrir. C'est un manga qui est plutôt typé tranche de vie. C'est un manga qui suit une jeune fille avec ses aléas, sa peinture.
C'est un joli graphisme. Hein. C'est un joli graphisme et on sent d'avance que ça peut, qu'un enfant peut s'approprier très rapidement cette histoire. Ouais.
Alors, oui, dans l'histoire, mais il y a un mais. C'est que c'est un livre qui est bavard. Pas seulement, alors pas tant que ça dans son récit en lui-même, mais nous avons des passages avec des gros pavés de texte. Alors, ceux qui ont l'habitude des mangas, les auteurs aiment bien raconter leur vie et tout ça. Eh bien, là, on a plutôt, avec ces passages de texte, le petit supplément qu'on trouve à la fin avec l'explication de texte, le pourquoi on a écrit ça. Ben là, on sait pourquoi elle a choisi l'Europe de l'Est et pourquoi l'Europe de l'Ouest, de l'Est, pardon, je vais y arriver.
Oui, tu nous as dit que c'était là où c'était pas bien.
Ben là, c'était compliqué, en fait. On sait pourquoi en fait elle ne le nomme pas, même si on le sait qu'elle s'est inspirée de la Tchécoslovaquie. Et à chaque fois en fait, elle va nous donner des détails. Pourquoi elle a décidé de parler des dragons, dragons qui sont plutôt à tendance maléfique. Et là, on en fait un personnage qui est plutôt mignon. Et on a toute cette explication de texte qui va nous conditionner sur la façon dont on va pouvoir lire derrière. Alors, on peut très bien s'en passer et zapper ces pages de texte qui sont quand même assez assez imposante.
C'est dense parce que c'est format manga, donc c'est petit format et il y a beaucoup de texte. Hein. Enfin, c'est oui.
Mais en même temps, c'est hyper intéressant pour peu qu'on veuille se lancer dedans.
Se lancer dans la lecture. Hein.
Alors j'aime bien moi ces formats un peu hybrides où justement on a du texte, mais ça demande un peu plus de temps à lire, ça demande un peu plus de concentration et un peu comme à pas comparer hein, Dragon dans ma cuisine à Watchmen, mais on a ces passages de texte qui vont alimenter l'imaginaire, qui vont, comme je disais, orienter un petit peu notre lecture vers certaines émotions, vers certaines compréhensions. Tu en parlais tout à l'heure, effectivement, le dessin, on est sur un dessin qui est plutôt détaillé et qui est vraiment très mignon, très kawaii. On va avoir l'évolution du dragon qui passe de presque un petit lézard avec très peu de détails. Et au fur et à mesure des pages et des chapitres, il va devenir un peu plus anguleux, limite un peu plus menaçant, tout en gardant son côté un peu mignon. L'auteur n'en parle pas, mais il a un comportement presque un peu félin dans son dans sa façon de faire. Et c'est plutôt, c'est vraiment une petite lecture feel good, vraiment très sympathique.
Alors, comme on est dans une progression, là, on est dans quelle catégorie d'âge pour toi, pour ce type de manga?
Là, faut compter une dizaine d'années.
D'accord.
À partir de 10 ans, c'est lisible, non seulement parce qu'il y a, ces pavés de texte qui vont quand même nécessiter un niveau de lecture un peu plus poussé, et puis qui peuvent rebuter aussi des enfants, mais à partir de 10 ans, sans trop de problèmes. Je ne sais pas ce que mentionne l'éditeur, mais il faut savoir que c'est une toute petite série, si je ne me trompe pas, c'est une série qui est close en 4 tomes. Donc voilà, si vous aimez les dragons, si vous aimez la cuisine, j'aurai d'autres thématiques sur la cuisine plus tard, mais c'est l'occasion. Richard, ton avis ?
Je connais pas du tout, les dragons ça me parle, la cuisine beaucoup moins.
C'est un truc particulier la cuisine, c'est vachement pratique dans un appartement.
Non, j'ai des soucis avec ma cuisine.
D'accord.
C'est assez sombre, faut pas que j'en parle. Mais bref. mais non, l'idée est cool, ça fait un mélange de fantasy et en fait, ça me fait un peu penser là, je regarde un petit peu les cases et tout ça. Ça me fait penser un petit peu à Osha Chi.
Chi,
où tu suis un petit peu aussi l'aventure de ce petit chat et j'ai l'impression que là il y a un mélange des deux. Tu suis aussi l'aventure du dragon et l'aventure de...
Ben, oui et non. Parce qu'en fait, Chi, on découvre in media res la vie que vivent en fait les personnages. On ne découvre pas la rencontre avec Chi.
Ouais.
Alors que là, c'est vraiment une sorte... j'irais plus sur le petit prince et le renard.
D'accord.
Qui vont s'apprivoiser l'un l'autre,
okay.
Apprendre à se découvrir. Il y a ce côté un peu poétique dedans qui marche bien.
Ok, d'accord. Tiens, je te passe, Luc.
Ben, j'ai déjà parcouru, j'ai déjà survolé. Ça me paraît. En tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le graphisme.
C'est vraiment très, très, très sympa. Ben, dans la même veine, très joli. Est très sympa. Je redonne les références avant. C'est Un dragon dans ma cuisine, publié aux éditions Nobi Nobi, scénario de Riri Shimada et un dessin de Miyoshi Furumashi.
C'est un dragon genre masculin ?
On ne donne pas son sexe.
Ah, dommage. Parce qu'un dragon, c'est bien, mais une dragonne, on s'y attache.
j'ai pas le petit jingle. Je vais le faire à la bouche.
Très bien. Bravo. Bah écoute, bienvenue. Hein.
Bonjour.
Ça peut être une émission.
Elle est pas de moi, mais.
Mais tu l'as faite.
Voilà.
Comment rebondir après ça?
Je suis désolé.
On va parler toujours chez Nobi Nobi, un manga de Yuki Kamba, ce qui s'appelle Chita et la forêt des minuscules. Et je sais que t'aimes bien regarder derrière les jaquettes.
J'adore.
Alors,
ça.
Je t'en prie.
J'ai même pas regardé le dragon dans ma cuisine.
Alors c'est tout sobre.
C'est là qu'on voit que c'est une dragonne justement.
Ah
oui.
C'est tout sobre derrière. Là. Alors que Chita et la forêt des minuscules, c'est un peu plus détaillé.
T'as un plan en fait.
Ouais. Alors ne parle pas tout de suite de ce D'accord. que tu vois. Chut, on va le détailler.
Ok.
Chita, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui a été abandonné par son papa dans une communauté. Et un jour, il voit une fumée au loin. Et tout le monde lui a dit, faut pas sortir de la communauté, c'est dangereux. Et un jour, il y a un de ses potes qui décide d'aller essayer de trouver ce que c'est que cette fumée, parce qu'il veut absolument savoir. Et Chita va décider d'aller poursuivre son pote pour le sauver, parce que c'est dangereux à l'extérieur. Et en chemin, Chita va rencontrer un homme qui cherche à rejoindre le village dont est originaire Chita. Pour une raison assez simple, c'est qu'il veut se venger d'un autre homme qui aurait abandonné là-bas un enfant, et en retrouvant l'enfant, il pourrait retrouver l'homme et lui permettre de se venger. Donc, Chita essaie un petit peu de biaiser, parce que du coup, il a bien compris que le gamin en question, c'était lui, et il n'a pas forcément envie que cet étranger aille tuer son papa qu'il ne connaît pas. Et il va finir par lier une sorte de pacte avec cet étranger pour aller retrouver son camarade Nara qui est perdu en direction de cette fumée. Alors, une chose que je ne vous ai pas dit.
Oui, voilà, j'allais dire, t'as oublié un truc là quand même.
J'ai
important.
Oublié un détail. On nous parle d'une forêt dangereuse et tout, ouais, ok. Il faut savoir que cette forêt, elle est gigantesque. Ou c'est Chita qui est tout tout petit.
Alors, le Sim6 d'ailleurs dit que c'est lui l'être minuscule.
Bah, de toute façon, même l'autre étranger est un personnage qui est petit.
Oui, c'est ça.
On se retrouverait presque dans le petit monde des chapardeurs Arrietty de chez Ghibli.
Les mini-moys.
Les mini-pousses.
Les mini-schcap.
Les lilliputiens.
Basiquement.
Hein, on va faire un peu d'histoire et de la littérature.
Okay, mais complètement les lilliputiens.
D'accord. Ben voilà, on a tout résumé finalement.
Et ça marche très bien. On se prend de l'aventure où chaque recoin en fait de forêt que pour nous hommes grands humains, chaque brin d'herbe on les écrase. Ben là, chaque brin d'herbe peut être caché un danger. À l'image du passage où ils vont rencontrer une jeune fille qui est aux prises avec des fourmis. Mais littéralement, les fourmis la dominent. C'est vraiment très sympa. Il y a le côté très aventureux. C'est une quête, parce que je pense que Chita va découvrir qui il est. C'est un voyage initiatique, tel qu'on pourrait le qualifier. Et c'est très, très joli. Il y a plein de détails, il y a plein d'animaux, il y a plein d'herbes, il y a plein de... C'est vraiment très sympa à découvrir. Ça manque pas d'action. Et en plus, on apprend aussi, alors de manière plutôt succincte, certaines choses sur les plantes, sur les insectes, et ça nous éduque au passage. Et ce que je t'ai demandé de ne pas répondre tout à l'heure, mon cher Richard, oui. C'est que à l'intérieur de la jaquette, oui. Dans la couverture, oui. On a les plans en coupe de la colonie dans laquelle évolue Chita.
Ils sont dans un arbre, c'est ça?
Ils sont dans un arbre.
Ok.
Et du coup,
c'est un tronc qui est tombé en fait.
C'est un tronc couché.
C'est des fourmis.
c'est un, ils sont un peu plus grands que des fourmis, mais pas beaucoup. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment très très mignon, très sympa. Là, c'est pareil. Alors, on parlait d'âge. Là, on est dans une progression plutôt simple. On va être plutôt sur 11 ans. C'est ce qu'indique l'éditeur.
Mais alors 10 ans, 11 ans, une heure d'émission, ça va être
pas comme. Non, mais on va y arriver. On va prendre quelques décennies d'un coup. Mais petite série en 3 tomes, Cheetah à la fois des minuscules, c'est vraiment cool. C'est du Kikamba, c'est aux éditions de Nobilobi, encore une petite série vraiment sympa, feel good, avec un peu plus d'aventure là quand même. Et voilà, un truc qui va pas charger les étagères, puisque voilà, conclu en 3 tomes, ça se fait très très bien. Je vous propose de faire une petite pause musicale. Alors j'ai envie de faire un hommage parce que alors il y a eu une période, moi je faisais toutes mes musiques de radio avec que des gens qui étaient décédés. C'était pratique, j'avais pas besoin de beaucoup réfléchir. Et puis là, il y a quelqu'un qui est décédé il y a pas très longtemps, qui est le chanteur d'un groupe que j'aimais beaucoup, qui a ému beaucoup tout le Canada actuellement. Et du coup, je voudrais faire mon petit hommage sur Radio G à Carl Tremblay, le chanteur des Cowboys Fringants, qui est décédé de maladie il y a peu de temps. Donc je vous laisse avec Les Étoiles Filantes des Cowboys Fringants.
Je m'arrête un instant pour te parler de ma vie. Juste comme ça, tranquillement, dans un bar rue Saint-Denis. Je te raconterai les souvenirs bien gravés dans ma mémoire de cette époque où vieillir était encore bien illusoire. Quand j'agaçais les petites filles pas loin des balançoires et que mon sac de billes devenait un vrai trésor. Ces hivers enneigés à construire des igloos et rentrer les pieds gelés juste à temps pour passe-partout. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de la petite école et de la cour de récré. Quand les avions en papier ne partent plus au vent, on se dit que le bon temps passe finalement comme une étoile filante. Je m'arrête un instant pour te parler de la vie. Je constate que bien souvent on choisit pas mais on subit. Et que les rêves des ticus s'évanouissent ou se refoulent dans cette réalité crue qui nous embarque dans le moule. La trentaine, la bédaine, les morveux, l'hypothèque, les bonheurs et les peines, les bons coups et les échecs. Travailler, faire de son mieux, n'arracher, s'en sortir et espérer être heureux un peu avant de mourir. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de notre petit passage dans ce monde effréné. Après avoir existé pour gagner du temps, on dira que l'on était finalement des étoiles filantes. Parler de la vie, juste comme ça, tranquillement, pas loin du carré Saint-Louis. C'est qu'avec toi je suis bien et que j'ai plus doucement faim. Parce que tu sais, voir trop loin, c'est pas mieux que regarder en arrière. Malgré les vieilles amertumes et les amours qui passent, les chums qu'on perd en brume et les idéaux qui se cassent. La vie s'accroche et renaît comme les printemps reviennent dans une bouffée d'air frais qui apaise les cœurs en peine. Ça fait que si à soir t'as envie de rester Avec moi la nuit est douce, on peut marcher. Et même si on sait bien que tout dure rien qu'un temps, j'aimerais ça que tu sois pour un moment mon étoile filante.
Et les étoiles filantes des Cowboys Fringants en hommage à Carole Tremblay qui est parti il y a quelques jours à peine. Je me suis plombé le moral tout seul. Vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G, c'est toujours la case de Seb. Et puis alors Richard, tu es venu plusieurs fois.
Oui.
À la base pour parler de jeux de rôle. Et puis on a discuté, on parlait de BD.
Tout à fait.
Et puis du coup, je t'ai dit, je te réquisitionnerais bien pour faire des chroniques, parce que t'as l'air de bien vouloir parler de BD.
Ouais. Alors je suis pas aussi calé que vous, mais j'essaye.
Allez, vas-y à toi.
Ok. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'un manga, ou je vais pas vous parler d'un manga ou d'une BD, non, je vais vous parler d'une adaptation récente sortie tout juste ce vendredi sur Netflix. Je vais vous parler de Scott Pilgrim.
Ouais, tu m'en avais parlé en off. Et tu en avais pensé quoi ?
Eh bien, avant de continuer cette chronique, je dois vous avouer que je suis un grand fan de Scott Pilgrim et de l'univers de Brian Lee O'Malley. J'ai même ramené ma collection complète pour mes camarades.
Alors, attends.
Merci, c'est gentil, ça.
Oui, mais... Dès le mois de... Hop là, ça marche pas, on a fait une bêtise.
Il y avait une pub derrière.
Ouais. Non, attends. Hop, j'y arrive. Et je peux pas faire 50 000 trucs en même
temps. Oh non.
On va y arriver. Voilà.
Voilà, j'ai tout sorti, j'ai tout.
Ah ouais, effectivement.
Pour le coup, j'ai grandi et je me suis construit en tant qu'adolescent en découvrant Scott Pilgrim en comics en 2011. Pour vous donner le topo de l'histoire, la série décrit la vie de Scott Pilgrim, un Canadien de 23 ans, habitant à Toronto, au Canada. Il est sans emploi, il joue de la basse dans un groupe, les Sex Bomb Ombes. Sa petite vie bascule le jour où il tombe amoureux d'une livreuse américaine, Ramona Flowers. Mais à peine une nuit passée ensemble, il apprend qu'il doit combattre ses 7 ex maléfiques pour pouvoir sortir avec elle. Cette série de comics est folle. Elle mélange humour, références geek, absurde, passant par des combats de fous, une histoire d'amour, un groupe d'amis qui se déchire et se permet juste parce que pourquoi pas de donner des recettes de cuisine, voire même des tablatures de base dans certaines de ses cases. Très peu de temps après, j'ai découvert aussi qu'il y avait un film Scott Pilgrim.
Donc Scott Pilgrim ou Scott Pilgrim versus The World dans sa version originale est un film américain sorti le 13 août 2010 aux États-Unis et réalisé par Edgar Wright, qui est un cinéaste qui déchire sa race et qui a été le réalisateur de la très bonne série britannique Spaced avec Simon Pegg et Nick Frost. Toujours avec Pegg et Frost, Edgar Wright est aussi le réalisateur de Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Le Dernier Pub Avant la Fin du Monde. Trois films que d'ailleurs je vous recommande sans hésiter. Donc Scott Pilgrim ou Scott Pilgrim
versus The World.
C'est reparti. Merci Karim Devache.
Et quel film, c'est bourré d'humour aussi. Il y a des références geeks. À commencer par son intro universel qui se lance comme un jeu vidéo. Je vous laisse écouter ça. Ce film est interprété par Michael Cera, qui joue Scott, Marie-Elisabeth Winstead, qui fait Ramona, et si jamais tu m'entends, Marie-Elisabeth, sache que cela fait 10 ans que t'es l'amour de ma vie, je t'en prie, quitte Evan McGregor, je t'en prie vraiment, envoie-moi un message sur Insta, je suis là, je t'attends, un message,
Richard,
d'accord.
Oui, s'il te plaît, on lui donnera ton numéro plus tard.
D'accord, ok. Il y a aussi d'autres acteurs peu connus, comme Brie Larson, qui fait Captain Marvel maintenant, ou Chris Evans, qui joue Captain America, et qui a été aussi nommé l'homme le plus sexy de 2021, selon People.
C'était pas toi ?
Non, c'est pas moi.
Un vrai casting de fou, donc. Et sinon, la série Netflix, t'en as pensé quoi ?
Et vous savez quoi ? Si vous voulez découvrir cette œuvre, je vous recommande de commencer par ce film plutôt que de répondre à Sébastien. Il est très connu dans l'univers geek, et bien qu'il ait fait un flop au ciné, il est devenu culte par la suite. Enfin, si ça vous plaît, vous pourrez lire les comics, et vous me remercierez un petit peu plus tard. Il y a aussi eu un jeu vidéo qui est sorti, un sympathique beat'em all sur PS3 et Xbox 360, perdu pendant 7 ans parce que le jeu était dispo en téléchargement et que les serveurs ont été retirés, puis ressorti récemment sur PS4, PC et Switch, et cette fois-ci en numérique et physique. à mon grand soulagement, alléluia.
Richard.
Mais aujourd'hui, je vais vous parler de Scott Pilgrim Takes Off, où Scott Pilgrim prend son envol de Netflix. J'étais déjà conquis, les trailers nous vendent la meilleure adaptation de mon comics préféré, et a réussi l'exploit d'avoir le casting du film pour cette série animée.
Tu vas pas nous spoiler.
Ah si Seb, je vais vous spoiler de ouf en fait. Si vous voulez que je vous divulgage pas cette série, je vous propose de fuir votre poste radio pour les prochaines minutes. En attendant, je vous passe l'intro de cette série. Premier épisode se lance et j'y suis. Je retrouve l'univers que j'aime, l'animation y est, c'est beau. Scott Pilgrim fait des références à Sonic. À quoi ? À Sonic ? Mais dans le film, c'était Pac-Man. Bon, clairement, à ce moment, je me dis que la série a voulu se remettre au goût du jour, a changé quelques détails. Mais l'histoire reste la même. Scott rencontre Ramona, passe une soirée ensemble, lui donne rendez-vous au Rockit et le premier combat avec le premier ex commence et Scott meurt.
J'ai gagné.
J'ai gagné!
Hein?
Mais tu fais quoi? C'est bon, j'ai gagné! Et si j'ai gagné, ça veut dire qu'on peut se remettre ensemble! C'est ça, non?
Ça va, Richard?
Et c'est les règles de la Ligue!
Ça va, Richard?
J'étais pas prêt.
Mais pourquoi tu t'en vas?
J'étais pas prêt. Cette série propose une version alternative. Laissée à elle-même, Ramona Flowers va se mettre alors à enquêter dans cette fatidique défaite qui semble cacher une autre vérité. Une autre réalité, un complot même. J'étais perdu, dubitatif, un peu déçu de voir que la série ne tiendrait pas la promesse du trailer, à savoir être la plus respectueuse de l'œuvre que n'a été le film. Mais j'ai regardé la série entière aujourd'hui pour les besoins de cette chronique. Et vous savez quoi ? Scott Pilgrim prend son envol et une chouette relecture d'une histoire déjà excellente en soi. Cela propose de nouveaux développements de personnages, de nouveaux angles d'approche, des thématiques déjà abordé dans l'œuvre originale, comme le fait de rompre avec quelqu'un, mais aussi le mal qu'on fait aux autres sans s'en apercevoir. Les inspirations et les références sont toujours là et utilisées de façon brillante. Il y a des caméos, comme par exemple Nick Frost et Simon Pegg. Et elle se permet même de faire des références au film ou au jeu Scott Pilgrim jusqu'à réutiliser ses musiques. Il y a même de l'humour méta réalisé avec la propre mythologie de cette œuvre, puisque à un moment dans cette série, les personnages tournent un film Scott Pilgrim basé sur l'histoire originale et réalisé par Edgar Wong cette fois-ci, et pas Edgar White. Après visionnage et réflexion, j'aime beaucoup cette série qui suit non pas Scott mais Ramona Flowers, mon personnage préféré bien évidemment, si vous aviez pas compris, qui devient sans le vouloir le personnage principal de cette série. Cette série propose indéniablement quelque chose de différent du travail d'origine de Brian Lee O'Malley, possédant ses propres qualités, sa propre identité bien singulière. L'âme de l'ensemble reste la même tout de même. Par contre, je pense pas que ça soit un bon point d'accroche pour les néophytes. Cette série s'adresse aux fans. Il faut avoir lu ou vu le film pour comprendre l'histoire, pour comprendre que la série dévie l'histoire, pour comprendre pourquoi Ramona, les ex et les amis de Scott le recherchent. Et par la suite, vous découvrirez un peu l'envers du décor. Vous découvrirez comment vivent les personnages, les relations qu'ils ont et comment ils évoluent. Plein de choses qui n'ont jamais été évoquées ou même montrées avant. et qui pourtant colle avec l'histoire d'origine. C'est ce qui rend cette œuvre encore plus intéressante. Donc pour finir cette chronique, je vous récapitule. La série Netflix est cool et mérite d'être vue si vous connaissez l'œuvre originale. Et si c'est pas le cas, bah allez voir le film, puis après les comics, et revenez plus tard pour apprécier à sa juste valeur la série animée Scott Pilgrim Takes Off. Et ça, c'est le générique de fin. Je vous laisse, il est trop bien.
Toronto au Canada, il n'y a pas si longtemps.
Eh bien, tu vois, du coup, alors, déjà, je suis super content que tu aies réussi à le faire dans un timing aussi court que ça.
Ouais.
Je vais te confier une chronique toutes les semaines.
Maintenant. Non, je peux pas.
c'est une sacrée performance, hein. On croirait voir un manga en action.
Merci, c'est gentil.
Ouais, c'est dingue. Alors, je suis quand même juste un peu déçu parce qu'en fait, les gens qui n'ont jamais lu Scott Pilgrim de base,
ouais.
Ils vont pas forcément savoir de quoi ça parle.
Bah non.
Donc, il faudra que tu fasses juste Scott Pilgrim tout court pour dans 15 jours.
Bah après, j'en ai parlé. Au début, j'ai dit le pitch de base.
Oui, c'est vrai que c'est le pitch de base.
Oui.
Mais c'est une série qui est complètement dingue. C'est une série. Alors, c'est un comics canadien. C'est ça qu'il faut se dire aussi.
C'est ça. Oui. Non, québécois. Ça se passe au Canada et il me semble. Et Brian Lee O'Malley, je crois qu'il est de Los Angeles.
Ah ouais, donc bon.
Bah, c'est le sud du Canada.
Ah oui, bah oui.
Mais ouais, c'est un manga qui est un comics, mais qui a été publié dans un format manga en fait, dans la première version qu'on a pu avoir en France.
Tout à fait, en noir et blanc.
En noir et blanc, qui est vraiment cool. Comme tu disais, le film, il est vraiment dingue. Moi, j'ai découvert Scott Pilgrim avec le film.
Ok.
Et c'était une folie. Et j'étais un peu surpris en fait en regardant le premier, parce que moi j'ai vu que le premier épisode sur Netflix.
Ok.
Et j'étais un peu surpris. J'ai fait ah ouais, pourquoi il est mouru? Et du coup, bah voilà.
Et tu sais quoi, Seb? J'ai eu la chance de rencontrer Brian Lee O'Malley.
Non. Il n'y a pas la dédicace, c'est juste une page de garde vierge.
Ah non, je me suis trompé de livre. Je voulais flex devant toi, mince.
Il essaie de me faire baver.
Oui.
Oh, trop bien.
Il est venu une fois en France et j'ai eu la chance de le voir et de voir le film en VO dans la même salle.
Oh, trop bien. Mais alors, si vous voulez vraiment un truc référence geek, pop culture, fun, pas trop de prise de tête, mais si un peu quand même, eh ben allez, sur Scott Pilgrim, c'est vraiment un truc de dingue.
Ouais.
En tout cas, ça fait envie.
Ouais.
Voilà, ce que je peux dire, c'est que ça fait envie. Ouais.
Ça joue avec les codes, ça fait plein de trucs, et comme tu le disais, ça réactualise dans la série. Tu vois, par exemple, j'imagine que dans le comics de base, Ramona Flowers, elle livre pas des DVD Netflix.
Non, elle livre pour Amazon.
Voilà, donc.
Et là, pour Netflix, eh ben, elle livre des DVD Netflix. Parce qu'avant, Netflix, c'était ça.
C'était ça. Bon, deux petits clins d'œil.
Ouais.
Ok. Comment tu veux que je rebondisse après ça, moi?
Ah oui, il a mis la barre trop. Là.
Donc là, on est passé dans l'adolescent. On va rester dans l'adolescent. Désolé, je te fais poireauter ce soir.
Pas du tout.
Luc.
Non. Moi, je découvre. Moi, je suis tout ouïe. Vas-y.
Là, on va partir du côté de la Sardaigne, à Carbonia. Et on va y retrouver une jeune fille qui s'appelle Franca, qui vient d'avoir 18 ans, dans la BD, le roman graphique, on peut dire, qui s'appelle Motorosa. Qui est publié aux éditions d'Argo et c'est un scénario de Jean Aubertin et Adèle Albrespi et un dessin et couleur de Jean Aubertin. Motorosa, est-ce que l'un de vous deux parle italien? Moi pas.
Pas du tout.
Ça doit vouloir dire moto rouge.
Tout à fait. C'est comme ça que je l'ai traduit de moi-même. Alors, Franca, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est une jeune fille qui était d'origine romaine, qui a migré à Carbonia suite au décès de sa maman pour aller vivre avec son oncle et sa tante. Son oncle est en fauteuil roulant, il a un certain âge, et sa tante a aussi un certain âge, mais elle n'est pas en fauteuil. Bon, bref, je m'égare un peu. Carbonia, c'est une ville qui célèbre la moto, parce qu'ils ont un circuit sur lequel les jeunes de Carbonia peuvent aller, je vous passe la BD en même temps, peuvent aller s'entraîner, s'éclater et faire de la vitesse. Sur ce circuit, c'est aussi les espoirs de sortir de cette ville que les jeunes vont pouvoir faire. Parce qu'en s'entraînant sur cette piste-là, ce qu'ils vont pouvoir arriver à faire, c'est aussi se faire repérer par des écuries professionnelles qui vont pouvoir sélectionner les jeunes qui vont peut-être pouvoir sortir. Donc c'est faire de la moto à Carbonia, c'est se projeter vers l'avenir, se projeter vers un futur. Et Franca, la moto, c'est pas trop ça. En fait, elle se dessine plutôt à devenir archéologue et partir aussi vite que possible et faire des grandes études à l'université La Sapienza à Rome, où elle va pouvoir obtenir un diplôme d'archéologue. Et puis, un soir, elle va monter sur la moto de Silvio qui va l'emmener. Et là, le kiff total. Elle se rend compte qu'en fait, la moto, elle aime ça. Elle aime la vitesse. Et sur un coup de tête, elle va claquer tout l'argent de l'héritage de sa maman pour s'acheter une moto. Une Ducati flambant neuve, rouge. Et cette moto, elle la conduit de la manière la plus, on va dire, pépère possible. Et dans Carbonia, tout de suite, on va finir par la surnommer la Romaine. Ou encore, Motorossa. Un petit sobriquet pas forcément très sympa, mais elle s'en fout. Elle est contente, elle est sur sa moto, mais elle n'arrive pas à retrouver le kiff qu'elle avait. Et un jour, elle décide de s'inscrire à la coupe qui a eu lieu tous les ans. Une coupe où vont s'affronter tous les meilleurs pilotes de Carbonia. Et cette coupe se déroule en 3 manches. Elle est censée permettre aux gagnants d'être honorés de gloire, mais comme on le disait tout à l'heure, elle n'est pas très très douée en moto. C'est là que son oncle va décider de l'accompagner. S'il est en fauteuil roulant, c'est qu'il y a une bonne raison. Si sa tante n'aime pas la moto, il y a une bonne raison. Et tous les deux, ils vont commencer à rouler mieux. Franca va prendre plus de risques. Et là, ça va nous embarquer dans des courses en moto qui sont complètement dingues. Alors, moi, je suis pas un grand fan de sport automobile. C'est pas un truc qui me fait kiffer. Mais là, on nous emmène. On a un dessin, alors, qui est un dessin plutôt très ligne claire, plutôt souple. Et il y a plein de petites astuces qui vont nous permettre de vivre la vitesse. Je sais pas si les plus jeunes ont peut-être pas vu, mais le film Tron, où on a ces motos qui laissent des bandeaux de lumière derrière, là on a des bandeaux de lumière blanche, parce que la moto elle va tellement vite qu'elle fend la vitesse, et ça donne des sensations qui sont assez dingues. Les personnages s'entrechoquent, il y a de la tension, et vraiment on suit Franca, on a vraiment envie qu'elle gagne, et on s'accroche à cette gamine qui... avec cette moto, ne cherche pas à se tuer, comme certains pourront le laisser sous-entendre, mais surtout à vivre sa vie pleinement, sans contrainte, et à vibrer. Et c'est vraiment dingue. C'est vraiment un pur moment d'émotion. C'est un passage très court dans cette vie, à la manière d'une moto qui vrombit, parce que ça décrit que quelques semaines de la vie de Franca. Jusqu'à un dénouement que je vous laisserai découvrir, puisque cet ouvrage ne parle pas que de Franca, ça parle aussi de ces autres adolescents qui vont rêver de partir, qui partiront ou pas. Et ça, ce sera le dénouement que je vous laisserai trouver.
C'est le graphisme est quand même très étonnant. C'est un graphisme très étrange, fait d'aplats. C'est uniquement que des aplats de couleurs. Un graphisme très simple, mais dans sa conception. Mais comme il y a une accumulation, ça fait des dessins qui sont vraiment très complexes, que je trouve très très beaux. Hein. C'est vraiment très séduisant comme roman graphique.
Ouais, c'est un style de dessin qui souvent me perturbe un petit peu pour une raison. C'est les regards. Ce sont principalement juste une bille de couleurs. Et pourtant, on arrive à véhiculer beaucoup d'émotions avec ça, et ça marche ultra bien. Donc, comme beaucoup de bouquins que j'aime beaucoup, souvent c'est des bouquins que j'ai eu du mal à prendre en main et à me dire tiens, je vais le lire, je vais passer un bon moment. Et au final, c'est souvent des bonnes surprises. Mmh. Dépassez des fois la couverture et vous allez avoir des pépites qui vont vous surgir entre les mains. Je vous redonne les références. C'est Motorosa de Jean Aubertin et Adèle Albrespi. Pas facile à dire, je suis désolé. Et c'est publié aux éditions d'Argo et c'est ultra bien, comme d'habitude. Je propose qu'on refasse une petite pause musicale avec Necry Talkie et Bloom qui sont à l'origine de la bande son du générique de Scott Pilgrim, un groupe que j'aimais déjà beaucoup avant et en fait accumulé de Scott Pilgrim, j'ai l'impression qu'ils ont pris tout ce que j'aimais, ils ont tout compilé, y compris la musique. On se retrouve tout de suite après sur le 100.5 de Radio G. Necry Talkie avec Bloom qui sert de générique à la série Netflix Scott Pilgrim Texts of Fun. Vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G, c'est toujours la case de Seb et on va peut-être laisser la parole à Luc. Pardon, j'ai paumé ton prénom. Oh la vache.
Bon, mais je m'en vais. Finalement, je m'en vais.
Qui va nous faire redescendre un petit peu et parler d'un polar, pardon.
Ouais, roman graphique polar. Ouais,
un roman graphique ouais. Polar.
Roman graphique polar, ouais, tout à fait.
Bulle de noir. Quand le polar s'écrit en BD. «
Bah oui, on va continuer cette aventure de polar et de BD. Avec peut-être des interrogations métaphysiques pour l'album que je vais présenter, je me demande pourquoi, en fait, l'homme de toutes les espèces animales, c'est la seule à faire preuve d'une telle imagination pour faire s'ouvrir ses congénères. On le jette d'hélicoptère pendant la dictature en Argentine. Il a été enfermé dans le goulag à l'époque de l'URSS. On l'a parqué dans les camps de concentration du temps du nazisme. On l'a torturé et brûlé vif au temps de l'Inquisition. En fait, sa puissance de nuire semble infinie et sa créativité en matière de souffrance inépuisable. Et c'est ce à quoi nous propose de réfléchir le roman graphique dont je vais parler aujourd'hui, Le Cri, avec Macchio au scénario et Lavalenger au dessin. Tout ça, c'est adapté d'un roman de Nicolas Beuglé.
Eh ben, ça commence bien.
Bah oui, Seb, il fallait bien ce préambule, mais je t'en dis plus. Oslo, l'asile de Gaustadt, cet asile détient un sinistre record, celui du plus grand nombre de lobotomies réalisées pendant les années 40 et 50. Sarah, policière suédoise, y est appelée pour enquêter. Un résident y était retrouvé mort au pied de son lit. Il se serait suicidé. Mais il a une particularité, cet homme, il a sur le front des cicatrices qui forment le numéro 488. Très rapidement, Sarah et son équipe s'aperçoivent que cet homme ne s'est pas suicidé et surtout n'est pas mort là où on l'a trouvé. Pourquoi le corps a été déplacé? Les premiers éléments de l'enquête montrent qu'il était en réalité reclus, isolé dans une autre partie de l'asile, mais aussi qu'il poussait des cris puissants. Et dans sa chambre, Sarah découvre des fresques gigantesques sur les murs qui reproduisent systématiquement les mêmes dessins. Ces premières découvertes semblent créer de l'agitation dans l'hôpital au point que le directeur, paniqué, met le feu dans une pièce dissimulée dans les sous-sols. Il y est blessé, on retrouve dans la pièce d'étranges appareils à moitié calcinés. Ce patient mort résidait dans l'hôpital depuis des dizaines d'années. Le médecin légiste apprend à Sarah qu'en fait, il est mort de peur et que son sang contenait une molécule d'un ancien médicament, le LS-34, médicament qui n'existe plus. L'enquête de Sarah va alors la conduire en France, dans le laboratoire qui fabriquait cette molécule. Et strate par strate, elle va tenter de détricoter un mystère qui a son origine bien loin d'Oslo, bien loin de la France, et bien loin dans le temps, puisqu'il nous replonge en pleine guerre froide.
Alors, ça me semble un peu compliqué cette présentation, et heureusement que c'est moi qui le dis, c'est pas trop capillotracté.
Heureusement que c'est toi qui le dis, parce qu'on a un point commun.
Ouais.
Raconté comme cela, je le reconnais, l'histoire semble abracadabrante. Mais voilà, c'est Macchio qui est au scénario, et Macchio, on peut lui faire confiance, il sait nous raconter des histoires. Souvenez-vous de sa saga « La balade du bout du monde ». Ou du magnifique cœur en Islande, qui n'a pas été bouleversé par l'histoire de Moïse, surnommé Petit Miracle, à un cœur de pierre. D'accord, Le Cri, ce n'est pas un scénario original, c'est l'adaptation du roman éponyme de Nicolas Beuglé. Mais Macchio, en fait, presque autre chose. Il va resserrer, densifier l'intrigue en dégraissant le roman du superflu et en concentrant son regard autour de son versant politique, la vénalité du lobby pharmaceutique connecté à la superpuissance des appareils d'État. Cette connexion, on pourrait la prendre pour un dispositif romanesque, mais comme un effet de l'auteur pour nous tenir en suspens. Mais quand on découvre, au détour d'une case, que cette histoire s'appuie sur des faits réels et des situations historiquement avérées, c'est un abîme qui s'ouvre sous nos pieds.
Et comment cet album se présente graphiquement?
Ça, c'était donc pour le scénario, Macchio au scénario, mais je vous parle d'un roman graphique, c'est Lavalenger, le comparse de Macchio qui s'y colle. Il a fait des choix graphiques, à mes yeux, radicaux. Tout d'abord, la mise en page. Des cases, beaucoup de cases, petites, qui sont au diapason du scénario, étouffantes, angoissantes. Ensuite, une colorimétrie sombre, avec beaucoup de couleurs froides, des bleus et des verts. Il n'y a que la couleur des cheveux de Sarah, le roux, qui explose sur la couverture et qui permet de l'identifier rapidement dans chaque planche. Et puis la texture, c'est de l'aquarelle. La conséquence de cette texture, les teintes s'étendent, se superposent, se mélangent. Le résultat, un graphisme complexe, riche, dense, tout à fait au niveau de l'intrigue. Alors ce titre, il n'échappera à personne que c'est le titre d'une œuvre de Edouard Munch. Et si pour Munch, le cri qu'il a peint est celui infini de la nature, celui raconté par Nicolas Beuglé et adapté par Macchio et Lavalinger vient de plus loin, ce n'est pas le cri primal qui annonce le début de la vie, mais le cri premier, le cri le plus archaïque qui soit. Cet album est diabolique parce qu'il agit sur nous à deux niveaux, l'histoire et le dessin, nous mettre rapidement en apnée. On frôle l'asphyxie, mais quand on intègre ce qu'il dévoile de l'histoire contemporaine, à l'asphyxie s'ajoute la terreur. Ce livre étonnant qui pèse son poids d'émotion, c'est le travail d'une toute petite maison d'édition, les éditions Phileas. Ils sont tellement petits qu'ils n'ont même pas de site, juste une page Facebook. Mais cette maison d'édition permet de vérifier que finalement, c'est à cette échelle que se prennent les vrais risques. Quels risques insensés elles prennent, ces éditions Phileas, réaliser un album de 144 pages avec une couverture rigide imprimée en France. À ce stade, moi je dis, c'est même plus de l'inconscience. Tu sais qu'on est le 20 novembre, Seb, et qu'il faut déjà penser à, dans un mois, à Noël. Eh bien, ce roman graphique, c'est le parfait cadeau pour tous ceux qui prétendent aimer la bande dessinée et le polar. Ce roman s'appelle « Le Cri ». Il est signé Macchio et Lavalinger. Il est publié par les éditions Phileas et on le trouve dans toutes les bonnes librairies au prix de 21,90€.
Eh ben, quel... C'est un Christ, un souffle.
C'est magnifique, c'est extraordinaire.
Enfin, c'est super
c'est
beau.
C'est un album magnifique, ouais, vraiment. Ouais. Ouais,
j'ai pu le voir pendant que tu faisais ta chronique. Effectivement, la couverture est magnifique et ce que tu dis par rapport aux couleurs, par rapport aux aquarelles, j'ai l'impression qu'en fait il y a un mélange entre aquarelle, mais aussi des fois il repasse un petit peu les lignes numériquement.
Mais c'est fort, hein. C'est vraiment très très fort. Hein. C'est une belle maison d'édition.
C'est une maison d'édition qui s'est spécialisée dans les adaptations de romans. Donc c'est forcément une maison d'édition qui allait te plaire, Luc. Ça, je n'en doutais pas.
Mmh. Voilà.
Je vous propose d'écouter, et on se quittera dessus, on fera sans doute pas de générique, la chronique de... Ah, ça va être trop juste, en fait, pour qu'on mette la chronique de Fabien là. On a trop parlé, je suis désolé, Fabien. Donc il va falloir qu'on meuble parce qu'on n'a pas assez de choses. Je sais pas si on veut parler. Ouais, effectivement. Alors je l'ai pas fini complètement.
Oui, parle-en quand même. Non,
c'est un ouvrage qui est monstrueusement beau de Lomig qui s'appelle Au cœur des solitudes, publié aux éditions Sarbacane. Donc déjà on va parler du fait que ce soit beau.
Hein. Ouais,
c'est
normal. C'est les éditions Sarbacane.
Ils ont fait un bouquin qui est d'un format un peu plus grand qu'une BD classique, qui est assez épais. Le papier, en plus, c'est un papier très riche, très texturé. Et on a un dessin qui est en monochrome et qui est ultra détaillé. Il y a plein de petits stries, il y a plein de petites choses. Attends, je le passe. Bah, tu l'as déjà feuilleté tout à l'heure. Donc, Richard, d'abord. C'est vraiment un truc de fou. Il y a un travail de dingue. J'aurais pas voulu être le crayon qui a dessiné cet ouvrage. Et il y a du détail, il y a de la texture. Sur les mangas, ils ont de la trame qu'ils utilisent. Là, c'est fait à la main.
Je pense que le crayon, il était pas seul. Il y avait plusieurs crayons.
Ouais, il y en avait certainement. Ouais.
Il y en a eu plusieurs,
je pense.
Oui.
Et ça nous parle des solitudes. Alors, je l'ai pas fini. Je vais pas en parler dans son ensemble, mais déjà on a un personnage qui, suite à un accident, donc il travaillait dans une scierie, il travaillait dans des mécaniques et il risque de perdre la vue. Donc on découvre ce personnage, les yeux bandés, et qui commence à relativiser sa vie. Il est expert en technique, il est très doué en machine. Mais il se dit que peut-être il aurait dû passer plus de temps à regarder les petites beautés du quotidien à l'extérieur plutôt que d'être aussi expert que ça. Et en discutant avec son infirmière, il se rend compte qu'il avait un projet, celui de traverser les États-Unis, un projet qu'il avait laissé de côté pour sa carrière professionnelle. Et on le retrouve plusieurs années après à faire ce projet. Et sur la peu près moitié de l'ouvrage que j'ai parcouru, on se rend compte que on a plein de solitudes différentes. On a la solitude d'un village qui a été miné par la guerre. la solitude d'un fermier qui est seul face à cette nature, la solitude de ce personnage face à la gigantesque épopée qu'il s'apprête à parcourir. Et au fur et à mesure, on a des personnages qu'on croise que le temps de quelques cases et qu'on va laisser seuls derrière nous. Et on se retrouve aussi, nous, seuls face à cet ouvrage, face à ces histoires, face à ces solitudes auxquelles on est plongé. Hein, et c'est vraiment une contemplation. L'ouvrage n'est pas avare de textes. Il y a des passages qui sont plus fournis que d'autres, mais globalement, on peut passer quelques cases avec l'impression d'avoir perdu notre temps à contempler, bah, comme celle que tu as là, qui nous montre des montagnes avec des nuages. Et on peut se poser tranquillement sur ces pages-là avant de reprendre l'aventure.
C'est très beau, hein. Enfin, le dessin est magnifique, hein. On est à cheval entre. Enfin, c'est du dessin, mais c'est aussi du pointillisme, hein, parce que c'est une multitude de points. Alors, je sais pas, on peut imaginer que si ce personnage perd la vue, c'est une manière de symboliser la vue qu'il peut avoir dans l'état dans lequel il est. Mais ça donne une densité de dessin qui est vraiment très très belle. On n'est pas dans le noir et blanc, hein. C'est très étrange. C'est un album qui est monstrueusement gros, 164 pages, mais ça, on connaît la qualité des maisons de chez Sarbacane. Hein. Mmh. C'est leur truc. Non, c'est vraiment c'est un album. En tout cas, quand on le prend, qui, en fait, on a envie de le lire, quoi. En fait, c'est terrible. Hein.
C'est un bel
objet. Hein. Ouais,
un bel objet qui nous attire. Et alors. On parlait de Motorossa tout à l'heure où je disais que la couverture m'avait pas forcément attiré, mais que j'avais passé un bon moment. Là, la couverture m'attirait, j'ai quand même passé un bon moment. Donc, c'est pas le même type de moment.
Non, mais c'est bien. C'est, ben voilà, encore un cadeau de Noël.
Ouais, encore un cadeau de Noël. L'Omig, au cœur des solitudes, c'est publié aux éditions Sarbacane. De toute façon, voilà, Phileas, Sarbacane, allez-y, hein, c'est très très bien. Oui. De toute façon, on ne dit pas du mal des éditeurs, donc allez-y. That's all, folks. Et oui, vous venez de l'entendre, c'est Porky qui annonce la fin de l'émission. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. En tout cas, j'ai passé un excellent moment en compagnie de Luc et Richard.
Moi aussi, en tout cas, hein, moi je suis un peu, comment dire, impressionné par la chronique de Richard. Donc, il a mis la barre très haut.
Mais non,
je ne sais pas comment on va faire les prochaines. Mais bon, non, moi c'est un vrai plaisir. Hein, c'était un vrai plaisir cette émission.
J'ai écrit ça vraiment en vitesse. Je l'ai fait sur un coup de tête à 16h. J'avais fini de regarder la série. Allez, j'y vais. J'ai piqué 2-3 musiques de la série. J'ai ramené ma collection. Bon, maintenant faut que je range tout. Mais
oui, c'est clair.
Mais non, en vrai, c'était cool et non, ça sera. T'habitues pas à ça. Je ferai pas ça tout le temps.
Dommage. N'hésitez pas à envoyer des messages sur la page Facebook de La Case de Seb ou par mail pour que Richard continue à faire des chroniques comme celle-ci. Bon, allez, j'espère que vous avez vraiment passé un bon moment, comme nous, on s'est bien éclaté. Et puis, on se retrouve dans 15 jours. Et n'oubliez pas de lire, il paraît que ça rend intelligent.
Ah ben, vous avez de la chance, parce que moi, j'ai appris à lire, ben, je ne souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Kaizoku Oni. Ore wa naru.
Batman. Nous, un petit ch'tou.
Batman. Trop vite. Il est parfaitement ici.
Justement. Les touristes de bord.
Modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi ? Mais c'est fini. Rentre chez toi. It was so bright, so bright.
régime.